7h sur Radio Orient. Bonsoir à tous, votre rendez-vous d'information, Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, Israël a remis 30 corps de Palestiniens en échange des 2 corps d'otages israéliens restitués hier par le Hamas. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide annoncent l'arrestation de plusieurs de leurs combattants soupçonnés d'exactions lors de la prise d'El Fasher. Enfin, nous reviendrons dans notre dossier du jour sur le vote d'une résolution du RN avec l'appui des députés LR et Horizon. Autre sujet, les investissements en Syrie après la visite du président Ahmed El-Shara à Riyad. Israël a rendu les corps de 30 Palestiniens en échange de 2 dépouilles d'otages israéliens restituées hier par le Hamas. Les corps des Palestiniens ont été transférés à l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Le Hamas a restitué les restes de 17 otages sur un total de 28. Des équipes égyptiennes autorisées à entrer à Gaza par Israël participent aux recherches avec des engins de chantier. Un ministre israélien a publié une vidéo sur Telegram où il se met en scène devant une rangée de prisonniers palestiniens alignés à plat ventre, les mains attachées dans le dos. Il s'agit d'Itamar Ben-Gvir, connu pour ses provocations. En pointant les prisonniers du doigt, il réclame la peine de mort pour les terroristes. Lors de la visite du ministre allemand des Affaires étrangères à Beyrouth, Joseph Aoun a déclaré que le Liban est prêt à négocier avec Israël pour mettre fin à l'occupation. Mais pour le président libanais, cela ne peut se faire à sens unique. Toute négociation nécessite une volonté réciproque qui n'existe pas encore d'après lui. Selon lui, Israël répond au Liban en menant davantage d'attaques. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont annoncé l'arrestation de plusieurs de leurs combattants qui sont soupçonnés d'exactions lors de la prise d'El Fasher, une ville marquée par des violences meurtrières contre les civils. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, des atrocités ont été commises dans la ville. Et puis le CICR dénonce aujourd'hui les violences visant humanitaires à Gaza et au Soudan. Le Soudan, où 5 volontaires du Croissant-Rouge ont été tués cette semaine. Enfin, la demande de liberté de Nicolas Sarkozy sera examinée le 10 novembre par la Cour d'appel de Paris. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. Le président syrien par intérim, Ahmed El-Shara, a annoncé cette semaine que son pays avait attiré 28 milliards de dollars d'investissement ces 10 derniers mois, en clair depuis le renversement de Bachar el-Assad. Un montant cité lors d'une intervention à Riyad, dans le cadre d'une conférence internationale sur les investissements. Le président syrien en était l'invité d'honneur. La Syrie est engagée dans une gigantesque entreprise de reconstruction. Dans quel état se trouve l'économie syrienne depuis l'arrivée du nouveau régime? On écoute David Rigoulet-Roz, enseignant et chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique.
Alors, elle s'est globalement améliorée, mais de manière encore trop modeste par rapport aux attentes, évidemment, de la population syrienne, hein, puisqu'on estimait au moment de la chute de Bachar el-Assad et juste après que près de des 3/4 de la population vivait sous le seuil de la pauvreté. Donc les enjeux sont immenses et les attentes proportionnelles à ces enjeux. Et c'est un facteur déterminant aussi pour la légitimité de la nouvelle gouvernance. Et le président Ahmed El-Shara le sait parfaitement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a modifié les lois économiques pour permettre aux investisseurs même de pouvoir rapatrier les capitaux à partir du moment où ils investiraient à long terme dans le pays. Donc cette dimension économique est cruciale. Et elle n'est pas dissociée, évidemment, ou dissociable des enjeux concernant la stabilisation politique, et notamment dans sa variable ethno-confessionnelle, puisqu'on a vu qu'il y avait eu des tensions très fortes avec la communauté alaouite, les druzes, sans parler évidemment dans le nord-est avec les Kurdes, même s'il y a des velléités et plus ou moins en cours de finalisation d'ailleurs, d'accords concernant effectivement le respect de ces minorités. Donc c'est pour le président Hamed Chera d'autant plus difficile qu'il va se heurter, et on l'a vu, à certains éléments périphériques djihadistes qui n'ont pas renoncé à leur agenda international. Alors lui a toujours dit qu'effectivement il s'inscrivait désormais dans une logique purement syrienne, et il doit donner des gages à la communauté internationale.
Ces derniers jours, en combattant des djihadistes qui font partie d'un groupe dirigé par un djihadiste français. C'est une manière de donner des gages et de montrer patte blanche, si je puis dire, par rapport à son passé.
Oui, alors c'est pas forcément une demande qui lui a été faite explicitement, contrairement à ce que semble laisser entendre Omar Hansen, justement le chef de ce groupe, qui s'appelle Firkat al-Ghouraba. C'est un groupe de Français, ils sont peu nombreux, ils sont quelques dizaines hein, dans la zone d'Idlib, mais manifestement c'était effectivement un élément qui permettait de montrer que la nouvelle gouvernance n'entendait pas se laisser déborder par des éléments incontrôlés, et l'enjeu est important, même à titre personnel, pour le président syrien, puisqu'il a échappé à deux, sinon trois tentative d'assassinat de la part d'extrémistes, parfois issus de HTS, Ayatollah al-Sham, qui est le mouvement qui a permis le renversement du régime de Bachar al-Assad.
David Rigoulet-Rose, enseignant et chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, au micro de François-Xavier de Calonne. Enfin, nous revenons sur le vote d'un texte du Rassemblement national à l'Assemblée nationale hier. Les députés ont adopté par 185 voix contre 184 une résolution visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Cela s'est joué à une voix près. Ce vote a eu lieu avec l'appui des groupes LR et Horizon. Question, est-ce un pas vers l'union des droites? On écoute Arnaud Benedetti, politologue, professeur associé à la Sorbonne.
S'il y a un rassemblement de droite qui se faisait, il se ferait prioritairement autour d'une candidate ou d'un candidat du Rassemblement national. Quant au Rassemblement national, aujourd'hui, il est très intéressant d'entendre le discours de Marine Le Pen, notamment, qui, elle, n'est pas favorable à cette martingale, d'une certaine manière, de l'union des droites, puisqu'elle dit ne pas s'adresser exclusivement à un électorat qui serait un électorat de droite, mais à l'ensemble des Français. Et en réactivant d'une certaine manière une thématique de rassemblement un peu gaullienne en l'occurrence, qui lui permet d'éviter justement de se positionner uniquement à droite.
Et sur ce plan-là, partage-t-elle la position de Jordan Bardella, qui sur le plan économique semble bien plus près des Républicains?
C'est une vraie question. Y a-t-il un coin entre la position de la présidente du groupe parlementaire Rassemblement national et Jordan Bardella? C'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait des nuances de ce côté-là, et que on soit du côté de Jordan Bardella plus enclin à essayer de parler à un électorat qui, sur le plan économique, est sensible aux thèses libérales, alors que Marine Le Pen est, elle, de son côté, plus proche d'une droite qui se voudrait une droite sociale et une droite populaire. Est-ce que c'est finalement un jeu de rôle entre l'un et l'autre pour essayer justement de brasser beaucoup plus large, en ayant ce positionnement, l'une plutôt droite populaire, droite sociale, et l'autre plutôt droite libérale, plus conforme au canon économique d'une partie de l'électorat de droite? C'est là aussi une interrogation qu'il faut se poser. Est-ce que c'est en effet un jeu de rôle, ou est-ce que c'est une nuance qui s'exprime entre la présidente du groupe RN et le président du Rassemblement national? À ce stade, il est difficile de dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tandem, au moins de ce point de vue-là, est très efficace, parce qu'il permet de brasser large.
Arnaud Benedetti, politologue, professeur associé à la Sorbonne. Il répondait à François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci à Raymond Jouan à la technique. Bonne suite de programmes sur Radio Orient.